Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Pierre Pinto.
Bonjour à tous, très heureux d'être avec vous. Dans 30 minutes, nous parlons ce matin de la menace terroriste dans la bande sahélo-saharienne. Aujourd'hui, le président tchadien Idriss Déby est annoncé à Ouagadougou, au Burkina. Ouagadougou, vous le savez, frappé de plein fouet le week-end dernier par une attaque revendiquée par ACMI et le groupe Al-Morabitoun de Mokhtar Belmokhtar, attaque qui a fait 30 morts et qui pose une fois encore, comme après l'attaque du Radisson de Bamako et bien d'autres au Niger, au Tchad ou au Cameroun notamment, qui pose une fois encore la question de la sécurité face au terrorisme. Vous l'avez peut-être entendu sur RFI ce matin, le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a estimé, lui, que les attaques de Bamako et de Ouagadougou démontraient que la mission de la force française Barkhane au Sahara et au Sahel n'était pas terminée et qu'il s'agirait d'un travail de longue haleine. Alors, les pays de la région doivent-ils faire, comment lutter contre le terrorisme? Quel regard portez-vous sur un certain nombre de mesures qui ont été prises dans votre pays dans le cadre de cette lutte contre le terrorisme? Sont-elles suffisantes ou sont-elles anecdotiques, simplement destinées à rassurer les populations? Comment expliquer d'ailleurs que 2 mois après l'attaque du Radisson de Bamako, une attaque similaire ait pu se produire dans un pays voisin? Pourquoi les leçons, les enseignements n'ont-ils pas été tirés? Vous sentez-vous en sécurité dans votre pays ou craignez-vous de nouveaux attentats? Appelez-nous, exprimez-vous, 33 9 693 693 70, 09 693 693 70, si vous nous appelez de France. Rendez-vous donc dans une demi-heure. Mais avant cela, comme chaque jour, nos journalistes et nos experts sont là pour répondre à vos questions. Vous souhaitez revenir sur un fait d'actualité traité à l'antenne, vous appelez au standard et chaque matin, nous tentons de répondre à vos interrogations. Et sans plus attendre, nous accueillons Mickaël. Mickaël, bonjour.
Bonjour.
Vous nous appelez de Libreville et vous avez une question concernant Guillaume Soro.
Oui, j'ai une question concernant Guillaume Soro. Alors, la justice burkinabé a lancé un mandat d'arrêt contre Guillaume Soro. Oui. Alors, de quelles preuves dispose Burkina pour lancer ce mandat? Cela ne risque-t-il pas de brouiller les relations entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire entre Abidjan et Ouagadougou?
Alors, ça fait 2 questions, en effet. Christophe Boisbouvier est avec nous en studio pour vous répondre. Bonjour Christophe.
Oui, bonjour Pierre. Oui.
C'est vrai, rappelons que le 8 janvier dernier, un mandat d'arrêt international a donc été émis par la justice burkinabé à l'encontre de Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, et ce dans le cadre de l'enquête sur le coup d'État de septembre 2015 à Ouagadougou, mené par le général Diène Déré. La justice burkinabé soupçonnerait en fait Guillaume Soro d'être impliqué dans ce putsch. Alors, Mickaël pose la question, Christophe, des éléments dont disposerait la justice burkinabé pour lancer ce mandat d'arrêt.
Il s'agit d'une conversation téléphonique au moment de ce putsch, une conversation téléphonique où plusieurs observateurs croient reconnaître les voix de Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, et de Djibril Bassolé, l'ancien ministre burkinabé des Affaires étrangères. Une conversation où les deux hommes discutent de la possibilité de soutenir ce putsch et où la voix attribuée à Guillaume Soro évoque la nécessité d'éliminer 2 personnalités burkinabées, Chérif Sy, qui à l'époque préside l'Assemblée de transition du Burkina, et Salif Diallo, qui deviendra plus tard le président de la future Assemblée burkinabé. Alors évidemment, la grande question que pose Mickaël, c'est de savoir si les 2 voix sont bien celles de Guillaume Soro.
Est-ce que ces bandes sont authentiques?
Voilà, de Guillaume Soro et de Djibril Bassolé. Oui, affirme Isaac Zida, qui était au moment du putsch le premier ministre de transition du Burkina Faso. Elles sont authentiques, dit-il. Non, affirment les 2 intéressés, ce ne sont que des chimères, déclare Guillaume Soro. Il l'a dit publiquement devant l'Assemblée ivoirienne. Je n'ai jamais tenu de tels propos, affirme Djibril Bassolé. Lui, il le dit par l'intermédiaire de ses avocats, puisque vous le savez, il est en prison depuis le mois de septembre dernier à Ouagadougou. Quelle que soit la réponse à cette question, en fait, le procureur militaire du Burkina Faso, le lieutenant-colonel Norbert Koudougou, indique que les enregistrements qui ont été versés au dossier vont être analysés par un expert qui sera chargé d'authentifier ou de discréditer ces écoutes. On en est là pour l'instant.
L'autre partie de la question de Mickaël concernait les relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Est-ce que cette affaire ne risque pas de brouiller les relations entre les deux pays voisins?
Oui, c'est possible. C'est possible. Hein. Il y a deux affaires en réalité. Hein. La première, c'est l'affaire Sankara. Près de 30 ans après l'assassinat du président Thomas Sankara, la justice burkinabé a émis le mois dernier un mandat d'arrêt contre l'ancien président Blaise Compaoré, qui est réfugié en Côte d'Ivoire. Et puis il y a donc cette seconde affaire, l'affaire Soro. Guillaume Soro, ce n'est pas n'importe qui, c'est le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, c'est donc le deuxième personnage de l'État ivoirien. Dès vendredi dernier, un proche de Guillaume Soro a jugé que ce mandat émis par le Burkina était un acte hostile. Hier, le bureau de l'Assemblée nationale ivoirienne a déclaré que l'émission de ce mandat d'arrêt relevait d'une attitude inamicale. Ce mandat pourrait sacrifier, sur l'autel de la politique, les intérêts des deux peuples qui ont une longue tradition d'amitié et de fraternité, ajoute le communiqué du bureau de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire où, vous le savez Pierre, vit une très importante communauté burkinabé. Ce matin, on en est là. Pour les deux présidents, l'Ivoirien Alassane Ouattara et le Burkinabé Roch Marc-Christian Kabore, cette question est prioritaire. Les deux hommes se connaissent bien, ils s'apprécient de longue date. Ils se sont revus il y a quelques jours à Ouagadougou lors de la prestation de serment du nouveau président burkinabé. Mais voilà, derrière ces deux hommes, il y a deux peuples qui n'ont pas toujours les mêmes attentes et qui devront trouver un terrain d'entente.
Et on suivra ça de très près, évidemment, sur RFI. Merci Christophe Boisbouvier et merci à Mickaël qui nous appelait de Libreville. Retour au standard au 33 9 693 693 70 pour parler d'un tout autre sujet. Nous accueillons Nzima. Nzima, bonjour.
Bonjour Pierre.
Vous nous appelez de Grand Bassam et vous souhaitiez revenir sur les Oromos, la répression des manifestations des Oromos en fin d'année dernière et début de cette année. On vous écoute, Nzima.
Ok. Bonjour aux auditeurs RFI de Mandoukou et de Grand Bassam. Okay. Alors, pendant deux mois, la communauté Oromo d'Éthiopie a organisé des manifestations qui ont été violemment réprimés par le pouvoir central éthiopien. Alors, je voulais savoir, quels sont les Oromos? Pourquoi la communauté Oromo est-elle marginalisée alors qu'elle représente le tiers de la population éthiopienne?
Alors, pour vous répondre, nous sommes en ligne avec Éloi Fiké. Bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour à vous et à Nzima.
Vous êtes historien à l'EHESS, l'École des hautes études en sciences sociales, spécialiste de la Corne de l'Afrique et de l'Éthiopie en particulier. Alors rappelons que pendant deux mois, fin 2015, les Oromos ont manifesté en Éthiopie contre un projet d'agrandissement de la capitale, Addis Abeba. Manifestation très violemment réprimée, 5 morts selon les autorités, 140 selon l'ONG Human Rights Watch. Revenons donc sur d'abord ce qu'est ce peuple Oromo. Qui sont les Oromos, Éloi Fiké?
Oui, les Oromos, ils forment une grande partie de la population éthiopienne, notamment au centre et au sud du pays. Pour se représenter la taille, sur une population globale d'environ 100 millions d'habitants en Éthiopie, les Oromos représentent plus de 30 millions de personnes.
Presque un tiers.
Presque un tiers, voire plus d'un tiers de la... Bon, les statistiques, c'est toujours délicat, mais en tout cas, oui, près d'un tiers de la population du pays.
La deuxième question de Nzima, en fait, tournait autour de cette marginalisation de cette partie de la population éthiopienne. Est-ce qu'il y a une véritable discrimination des Oromos en Éthiopie, Éloi Fiké?
C'est une question un peu compliquée. D'abord, bon, les Oromos sont une grande population, mais assez divisée. S'ils ont une langue commune et le sentiment d'une histoire, d'un destin commun, les Oromos sont divisés par des identités régionales et religieuses qui ont affaibli leur capacité à affirmer un leadership à l'échelle nationale.
Et ça vient de raisons historiques? D'où vient cette marginalisation?
C'est une histoire en fait très longue. Il faut revenir en fait 4 siècles en arrière, quand le royaume chrétien d'Éthiopie, qui forme les bases de l'État éthiopien actuel, ce royaume chrétien formait un grand empire depuis le milieu du Moyen-Âge et il s'est effondré suite à une guerre de religion. Et c'est alors que les Oromos, qui étaient une population de pasteurs à la tête de grands troupeaux, venaient des confins du sud pour pour pénétrer sur les hautes terres fertiles du nord du pays et remplacer l'empire qui était décadent dans ces régions. Et les Oromos étaient porteurs d'une autre vision du monde, plus écologiste et d'un ordre politique, disons, de type républicain, opposé à la société de rang très hiérarchisée de l'Empire chrétien d'Éthiopie. Et c'est cette culture politique, deux cultures politiques qui continuent de s'affronter aujourd'hui entre une vision, disons, plus égalitariste de la société portée par les Oromos, une vision plus hiérarchique portée par le leadership des sociétés du nord du pays. Donc c'est moins une situation de discrimination que d'opposition entre deux visions de la société et de l'organisation politique qui est en jeu.
Et c'est de cela qu'il s'agissait alors fin 2015 lors de ces manifestations des Oromos autour d'Addis Abeba.
Oui, mais c'est aussi des questions, disons, de historiques, de contrôle de territoire. Les terres autour d'Addis Abeba sont des terres qui appartiennent aux Oromos depuis donc plusieurs siècles. Mais en même temps, depuis la fin du 19e siècle, les Oromos ont été absorbés par la recomposition militaire et politique de l'Empire éthiopien, notamment sous les règnes des célèbres empereurs Ménélique et Haïlé Sélassié, donc fin 19e, début 20e siècle. Et Addis Abeba, la nouvelle capitale de l'Empire, a été fondée dans les années 1890 au milieu des territoires Oromo qui sont parmi les terres les plus fertiles, les plus riches du pays, d'une part, et puis sur une position au centre du pays qui permettait de contrôler les richesses commerciales du sud, notamment le café, la civette, l'ivoire, des richesses qui étaient produites par des populations, notamment Oromo. Et donc la question de l'expansion d'Addis Abeba, qui provoque le soulèvement des paysans et des jeunesses Oromo aujourd'hui, réveille ces questions historiques qui sont très sensibles.
Autour de rivalités foncières et d'accaparement des terres également.
C'est l'une des questions, la question des terres, mais aussi des questions de statut, d'organisation politique, de domination d'une structure politique, disons, très hiérarchique, qui par rapport à une vision plus égalitaire du partage des richesses du pays.
Bien, merci beaucoup Eloi Fiquet, merci Anzima qui nous appelait de Grand Bassam. Retour au standard au 33 9 693 693 70, et nous allons parler avec Abraham qui nous appelle de Koutiala du Réal. Bonjour Abraham.
Oui, bonjour Pierre.
Alejandro Valente nous a rejoint dans ce studio. Alejandro Valente, le chef du service des sports, et vous avez une question pour lui. On vous écoute.
Oui, plutôt des questions. Mm-hmm. Je profite de l'occasion pour donner un bonjour à tous les auditeurs, et à tous les parents au pays Dogon, particulièrement la famille Sagra Akoro.
Ils vous ont entendu. Alors, on écoute votre question.
Ok, Zidane a remporté deux matchs très écrasants. Mm-hmm. Est-il une chance ou a-t-il mené des tactiques particulières?
Alors, et vous aviez donc une deuxième question?
Oui, je demande toutefois s'il a eu une chance.
Ah d'accord, c'était la deuxième partie de votre question, d'accord. Zidane devenu entraîneur du Real Madrid, c'est vrai, 5-0 face à la Corogne, 5-1 je crois face à Giron. C'est quoi Alejandro Lente, la chance du débutant ou une recette miracle?
Non, je pense que c'est surtout des résultats logiques pour une équipe comme le Real Madrid. D'ailleurs, avec le prédécesseur de Zidane, Rafael Benitez, le Real remporter aussi des matchs sur des scores fleuves face à des adversaires de milieu de tableau ou de bas du tableau. Donc on mesurera vraiment l'apport des Zidane quand il arrivera le moment d'affronter des équipes comme Barcelone, l'Atlético Madrid, etc. Cela dit, on perçoit tout de suite un changement dans l'état d'esprit, dans l'ambiance au sein de l'équipe. Tactiquement également, hein, Zidane a misé fortement sur son trio d'attaquants vedettes, Benzema, Bale, Cristiano Ronaldo. Il a mis en place un milieu de terrain très offensif en demandant à tous les joueurs de faire un grand pressing sur l'adversaire. Donc ça rappelle plutôt la tactique qu'employait le Real Madrid avec Carlo Ancelotti les prédécesseurs de Rafael Benitez. Donc Zidane est revenu au système qui prévalait lorsqu'il avait remporté notamment la 10e Coupe d'Europe. Cela dit, ces bons résultats ne peuvent qu'accroître la confiance que lui accordent les supporters et les joueurs dans cette nouvelle aventure.
Restez avec nous, Alejandro, puisqu'on a d'autres questions sur le Real Madrid, notamment de Darvin. Darvin, bonjour.
Bonjour, Pito.
Vous nous appelez de Brazzaville et vous avez également une question sur, on va dire, le championnat espagnol. On vous écoute.
Oui, j'ai deux questions concernant la sanction du Real et de la Fédération de Madrid. Bon, les deux clubs madrilènes viennent d'être sanctionnés pour avoir fait jouer les mineurs. La première question, pourquoi la FIFA intervient si tard alors que cela dure depuis 2005? La deuxième, quelles sont les conditions pour avoir fait jouer les mineurs.
C'est vrai que si au tableau d'affichage, donc on vient de le voir, tout va bien pour le Real, le club, comme l'Atlético Madrid d'ailleurs, est en difficulté puisque la FIFA a interdit à ces deux clubs tout transfert pendant un an. Déjà pourquoi ? Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer rapidement ?
On se rappelle déjà que Barcelone avait été victime, entre guillemets, d'une sanction similaire l'année dernière. En fait, dans tous les cas, c'est des irrégularités dans les transferts des joueurs mineurs, aussi bien au Barça, au Real ou à l'Atlético. Alors, c'est vrai que c'est des problèmes qui remontent à loin. Il faut comprendre que les systèmes pour transférer un mineur aujourd'hui dans un club européen, c'est de plus en plus compliqué. La FIFA a pris des mesures destinées à protéger les mineurs justement d'éventuels trafics ou d'autres choses de ces genres. Et donc, aujourd'hui, vraiment, il faut remplir une documentation très, très dense pour pouvoir procéder à ce type de transfert.
Les conditions, oui, voilà.
Alors, on va résumer parce qu'on ne peut pas donner toutes les conditions, mais par exemple, il faut que le père et la mère du joueur soient installés depuis plus de 5 ans dans le pays des destinations, qu'ils aient un travail qui n'est pas en rapport avec le football, que leur résidence soit située à moins de 100 km du club où le joueur va être inscrit. Vous voyez, il y a énormément de conditions de ce type. Il faut aussi que le club fournisse au joueur une éducation, etc. Mais ce sont surtout ces conditions de résidence, de travail en dehors du football. Donc l'idée, c'est d'éviter qu'un club, pour attirer un jeune, fournisse un travail bidon au père ou à la mère, etc. et les installe à proximité du club. Il faut vraiment que ce soit un travail qui n'ait rien à voir avec le football.
Alors pourquoi maintenant, alors qu'on parle de cette histoire depuis 10 ans ?
Alors voilà, disons que c'est assez difficile pour la FIFA de savoir, d'avoir tous ces détails. On dit qu'aussi bien pour le Barça que maintenant pour le Real ou l'Atlético, il y a eu des dénonciations qui ont été faites auprès de la FIFA, qui a dû mener une enquête qui a été assez longue. Vous savez aussi que la FIFA connaît pas mal de problèmes depuis quelques temps et on sait que les sanctions contre le Real et l'Atlético étaient décidées depuis plusieurs mois, mais en absence d'un secrétaire général, Jérôme Valque étant suspendu, etc., on n'avait pas notifié au club cette suspension. Et donc aujourd'hui que Jérôme Valque a été limogé et qu'un successeur a été nommé, etc., les choses sont rentrées un petit peu dans l'ordre et la notification a été faite.
En 30 secondes, je me fais le porte-parole de Muntaga qui nous pose cette question de Dakar. Est-ce que Cristiano Ronaldo, dans ces conditions, qui est un peu l'âme de l'équipe du Real Madrid, pourra quitter l'équipe dans ce contexte?
C'est assez difficile, disons qu'il est toujours sous contrat, donc il faudrait qu'il ait...
On parle de lui pour Paris.
Voilà, il faudrait qu'il ait envie de partir. On sait qu'il en avait quand Rafael Benitez était là, on ne sait pas si ça a changé avec Zidane, et puis il faudra aussi que les clubs soient d'accord et que les clubs qui veulent l'acheter y mettent le prix, ce sera très élevé sans doute.
Donc le feuilleton reste ouvert. Merci beaucoup Alejandro Valente, merci à vous tous de nous avoir appelés. On retrouve vos questions à la rédaction demain. Restez avec nous dans 10 minutes après la dernière édition d'Afrique Matin. Le débat du jour, quelles mesures prendre face au terrorisme dans la bande Sahel-Ossar. Il y en a tout de suite.
Retrouvez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie après le journal.